Studio Tamani, voici nos informations en français.
Mardi 9 novembre 2021, vous êtes à l'écoute de Studio Tamani. Mesdames et messieurs, bonsoir, voici les titres de ce journal. Le gouvernement malien réagit aux sanctions de la CEDEAO. Selon lui, les résolutions de la CEDEAO ne tiennent pas suffisamment compte des aspirations profondes du peuple malien et des efforts déployés au quotidien par les autorités de la transition pour relever les défis. Les arrestations massives continuent toujours en Guinée équatoriale. Seuls ceux qui ont pu présenter des documents en règle ont recouvré la liberté. Selon des sources sur place, le point sur l'évolution de la situation dans ce journal. Les conducteurs de mototaxis de plus en plus cibles d'attaques meurtrières. Ce matin, ils étaient à la place de l'Indépendance pour protester contre l'assassinat de certains de leurs collègues. Je suis Hamsitou Touré à la présentation. Les autorités de la transition ont réagi ce lundi aux sanctions annoncées par la CEDEAO à leur encontre. Dans un communiqué, le gouvernement dit prendre acte des conclusions de la session extraordinaire de l'organisation tenue le 7 novembre à Accra. Il déplore les décisions prises lors du sommet. Selon lui, la CEDEAO n'a pas tenu compte des efforts qu'il a fournis. L'Union européenne aussi envisage de soutenir la communauté dans sa démarche contre le Mali. Les explications avec Moussa Malé Sissoko.
Les autorités maliennes regrettent les décisions prises lors de ce sommet. Selon elles, ces résolutions ne tiennent pas suffisamment compte des aspirations profondes du peuple malien et des efforts déployés au quotidien par les autorités de transition pour relever les défis. Toutefois, le gouvernement réitère sa volonté de poursuivre le dialogue avec la CEDEAO en vue de permettre la tenue d'élections libres et transparentes dans les meilleurs délais et conditions d'organisation. Il faut rappeler que l'organisation sous-régionale a décidé d'interdire les voyages aux autorités de transition et geler leurs avoirs financiers. Les chefs d'État de la CEDEAO ont appelé l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU et ses autres partenaires à approuver et soutenir l'application de ces sanctions. La réponse de la France à l'appel ne se fait pas attendre. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré ce lundi, au cours d'un point de presse, que son pays soutient la décision de la CEDEAO. Elle a indiqué que le Conseil des affaires étrangères et reviendra sur la question le 15 novembre prochain. Selon la porte-parole, l'Union européenne aussi travaille actuellement à la possibilité d'adopter des mesures restrictives en soutien aux efforts de la CEDEAO.
Sur le même sujet, pour des économistes, ces sanctions pourront avoir des conséquences économiques sur le Mali au regard de sa position dans l'espace CEDEAO. Selon eux, ces sanctions risqueront d'être matérialisées sur le terrain. Écoutons les explications de Modibo Mao Makalu, économiste. Il était au Grand Dialogue de Studio Tamani du lundi 8 novembre 2021.
La CEDEAO est l'une des organisations sous-régionales les plus avancées et celle qui marche le mieux en Afrique et dans le monde. Parce que son rôle, c'est de promouvoir le développement économique. La population du Mali ne fait que 5% de la CEDEAO. La richesse de la CEDEAO, c'est environ 800 milliards de dollars. PIB du Mali, c'est-à-dire la richesse nationale du Mali, ne fait que 2,5% de la richesse de la CEDEAO. Le Mali est quand même la cinquième économie de la CEDEAO. Nous sommes importants, nous avons besoin de nos voisins parce que nous avons sept frontières et sur cette frontière, il y en a 5 qui font partie de la CEDEAO. Nous avons une diaspora de plus de 5 millions de Maliens. 60% de notre économie dépend de l'extérieur. Les Maliens de la diaspora envoient tous les jours que Dieu fait par les circuits financiers 1,5 milliard de francs CFA, 500 et 600 milliards de francs CFA chaque année.
Toujours sur le même sujet, après l'annonce des sanctions ciblées contre les autorités de la transition par la CEDEAO, les réactions se multiplient. Si certains dénoncent cette mesure de l'organisation ouest africaine, d'autres invitent les autorités à s'entendre avec la CEDEAO sur une date pour les élections. Écoutons ce micro-trottoir réalisé par Oumar Waïgalo.
Je demanderai à l'autorité malienne d'aller s'asseoir pour qu'il puisse se comprendre vraiment sur une date.
Comment se fait-il que tu veux condamner un pays alors qu'il y a des pays membres même de la CEDEAO qui sont en train de bafouer leur pays? C'est du syndicalisme d'une manière au profit de soi-même.
Avec l'état actuel du pays, la CEDEAO ne devrait pas prendre cette décision parce qu'elle devrait chercher d'autres solutions que ça.
Ils n'ont qu'à prendre des décisions. Tout ce qu'ils veulent là, ils n'ont qu'à faire. Nous, on est maliens, nous allons lutter.
Moi, je ne suis pas d'accord
C'est deux poids, deux mesures. Le président togolais, il a fait combien de mandats? Ils n'ont qu'à le faire, on n'a pas besoin de cette CEDEAO.
Nous demandons à la CEDEAO de comprendre le problème du Mali, de faire tout pour aider le Mali à relever le défi sécuritaire et le défi économique.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Le directeur du second cycle de Djéné a été assassiné le week-end dernier. Selon une source locale, il était parti à son champ à 2 km de Djéné. C'est là-bas que des hommes armés non identifiés l'ont assassiné. Précisent les mêmes sources, les raisons de ce drame restent inconnues pour l'instant. Je l'annonçais dans les titres, les conducteurs de mototaxis sont en colère à Bamako. Ils étaient une centaine à se regrouper à la place de l'Indépendance ce mardi pour dénoncer les multiples agressions dont ils font l'objet ces derniers mois. Au moins 4 conducteurs ont été assassinés par des malfrats et leurs motos emportées. Les conducteurs de mototaxis interpellent les forces de l'ordre à mieux s'impliquer dans leur sécurité. Le point avec Abdoulaye Kassé.
Les conducteurs de mototaxis sont sortis massivement pour occuper la place de l'Indépendance ce mardi. Ils protestent contre les attaques meurtrières dont leurs collègues sont victimes depuis des semaines. Daouda Traoré, adjoint au syndicat des conducteurs de mototaxis.
Le conducteur de Tilmani a pris ses 2 clients pour traverser le pont. Et du coup, ils l'ont poignardé. Il a beaucoup saigné. Cela s'est passé aux environs de 20h. Il s'est passé un acte pareil chez nous à Badrabou. C'était la nuit de la fête. L'agresseur était un militaire qui avait braquer les conducteurs de mototaxi. On ne doit pas aller n'importe où à cause de l'argent. On ne doit même pas conduire tardivement, c'est dangereux.
Pour beaucoup de conducteurs de moto, le manque des patrouilles dans certaines zones a favorisé cette situation d'insécurité.
Si tu traverses le fleuve la nuit, c'est toujours le même cas. Les bandits ont une fois blessé quelqu'un jusqu'à ce qu'on l'y a conduit aux urgences à Titibougou. De cas pareil s'est passé sous le troisième pont où ils ont égorgé quelqu'un. Les bandits ont attaqué 2 personnes la même nuit. Vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en chômage, nous essayons de nous en sortir avec ce métier. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu dangereux. Que faire? L'objectif de cette marche est de demander aux autorités de bien faire les patrouilles pendant la nuit.
En attendant des mesures fortes pour protéger le secteur, la vigilance doit rester de mise pour les conducteurs de mototaxis ainsi que leurs clients.
Autre sujet, les Maliens arrêtés la semaine dernière en Guinée équatoriale n'ont pas tous été libérés. Seuls ceux qui ont pu présenter des documents en règle ont recouvré la liberté, nous confirment des sources sur place. Elles précisent que la situation reste toujours difficile dans ce pays où les arrestations continuent. Pour plus de précisions, écoutons Boukari Maïga, vice-président du bureau du Conseil supérieur de la diaspora du Mali CSDM en Guinée équatoriale.
Nous avons l'accès à la police, à la prison 2 fois par jour, matin et soir. Depuis le début, on est là, on cuisine tous ces détenus et on les prépare à manger et on veille à savoir leur état de santé. Donc ce matin, on était à la police, les détenus qui sont toujours là-bas. De dire qu'ils ont été libérés, c'est faux et atypique. Hier matin, il y a eu plus de 11 personnes qui ont été arrêtées. Hier matin, ils étaient une trentaine. Bon, ce matin, dans la soirée, il y avait eu d'autres qui se sont avec leurs papiers et de là où ils travaillent, ils ont été libérés, à peu près 2-3 personnes comme ça. Donc ce matin, on était là-bas et on a eu l'accès, mais on n'a pas eu à les compter. Quand on a ouvert la prison pour leur donner à manger, le message qu'ils nous ont laissé, c'est de dire au consulat de les faire rapatrier.
Malgré les avancées technologiques enregistrées par les établissements financiers, banques et autres, les clients dénoncent les tracasseries lors des transactions. Ils évoquent notamment la lenteur par rapport aux services de distribution financiers dans les banques. Ces établissements financiers disent ne pas être responsables de ce phénomène. Ils affirment toutefois que des dispositions sont en cours pour pallier le problème. Les détails avec Fatia Tara.
Beaucoup de clients ne cachent pas leur ras-le-bol face à la situation. D'ailleurs, certains envisagent de se passer de services bancaires si la situation perdure.
Il faut qu'on nous respecte. Nous ne sommes pas des chiens. Ils cherchent leurs droits. Nous aussi, nous avons des droits. Désormais, nous allons nous organiser. Ils n'ont qu'à songer aux clients.
Ça m'est même venu à l'idée justement de quitter la banque pour aller au bietage. Sinon, en réalité, je n'ai aucune envie désormais de rester, enfin, de laisser mon salaire à la banque.
Si c'est ça, on pense que on va retirer nos sous de la banque et on les garde à la maison. On retourne à l'ancien système traditionnel.
Les responsables des banques et établissements financiers justifient cette situation par plusieurs facteurs. Il s'agit notamment des difficultés liées au nouveau système de bancarisation. Néanmoins, ils rassurent que des dispositions sont en cours pour renforcer les mesures déjà prises. Abdoulaye Keïta, trésorier général du SINABEF.
Au Mali, la culture du cash, jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver une solution durable. Sinon, les banques ont fait des propositions à des services, notamment la digitalisation, les cartes bancaires, les transferts à partir de ton compte mobile, que ce soit Orange Money, Sama, Mobicash. Nous continuons la sensibilisation.
Rappelons aussi que depuis un moment, certains clients ne cessent de décrier une récurrente perturbation des services dans les guichets automatiques.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
À présent, cap sur les régions, la mutualité de Ségou a organisé une journée porte ouverte. Samedi dernier, l'activité avait pour objectif de faire connaître les divers avantages de la formule mutualiste pour l'accessibilité financière des communautés aux soins de santé et de faire connaître les différentes missions de la mutualité et sa méthode de fonctionnement. La journée a permis aux populations de s'inscrire au service mutualiste. Elle a été aussi marquée par des dépistages gratuits du diabète et de l'hypertension artérielle. Nous recevons à présent Imrana Kilumaïga pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Imrana Kilumaïga. Bonsoir Imrana Kilumaïga.
Bonsoir Amsa Toutouré.
Quel est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui?
Assise nationale de la Refondation, pourquoi sa tenue divise la classe politique? Et nous avons trois invités, Boubacar Diko, premier vice-président du parti Yelema, Boulan Baro, membre du directoire du parti CINID, Congrès national d'initiative démocratique, et Bakabini Keïta, politologue, professeur à l'université de Bamako.
Merci Imrana et bon débat. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. C'est la fin de ce journal, mais restez à l'écoute dans un instant. La question A. Juger les militaires ayant commis des infractions dans l'exercice de leurs fonctions ou des infractions de droit commun est la compétence du tribunal militaire, affirme des juristes. Il peut y avoir aussi des civils co-auteurs ou complices, précise-t-il. Composé de civils et de militaires au Mali, il existe trois tribunaux militaires rattachés à différentes cours d'appel qui sont à Kay, Mopti et Bamako, déclarent les responsables du tribunal militaire de Bamako en prélude à la tenue de la première session ordinaire 2021 de la chambre criminelle du tribunal militaire de Bamako prévue ce mercredi 10 novembre. Notre reporter Mamadou Samasekou a tendu son micro à Noumandi Kanté, président du dit tribunal.
Le fonctionnement, c'est à travers les jugements qui sont faits. Soit de façon ordinaire, nous avons les jugements en matière correctionnelle qui sont des délits et des jugements en matière criminelle, comme le cas de demain, la cour d'assises, qui sont des crimes, des infractions qui vont de la réclusion de 5 à 20 ans, la réclusion à perpétuité ou la peine de mort qui est la peine maximale.
Qu'est-ce qui la différencie des autres juridictions?
Un militaire qui va se transporter, étant en tenue, excusez-moi, dans un bar, il commet une infraction, il commet un assassinat ou bien un meurtre, c'est la qualité de militaire qui l'emporte. Il a commis normalement une infraction de droit commun, mais vu le fait qu'il est militaire, il a commis ça soit dans une caserne ou dans une localité rattachée quand même à un service militaire ou étant en tenue, et forcément c'est la qualité des militaires qui l'emporte sur la qualité du droit commun. Sinon, en termes de procédure, hormis la composition de la cour, dont le président est un civil et les autres membres, nous sommes au nombre de 5, 2 à droite, 2 à gauche, les 4 autres sont des militaires. À part ça, c'est les mêmes règles de procédure qui s'appliquent, c'est-à-dire le code de procédure pénale qui s'applique, mais dans le cadre du tribunal militaire, le code de procédure pénale et le code pénal sont complétés par la loi portant justice militaire, qui est une loi de 95.
Pour la première session ordinaire qui s'ouvre ce 10 novembre 2021, trois affaires sont inscrites au rôle selon votre communiqué. Peut-on savoir de quelle sorte d'affaires s'agit-il?
Il s'agit purement des infractions d'atteinte à l'intégrité physique. Nous avons un cas d'assassinat, un cas de meurtre, un dernier cas de viol. Donc toutes ces infractions sont des infractions d'atteinte à l'intégrité physique de la personne humaine. Pour cette session, nous n'avons pas de cas de vol, d'atteinte au bien ou autre chose, mais c'est purement des infractions d'atteinte à l'intégrité physique. Et on a trois dossiers. Chaque dossier comporte un accusé. On a donc trois accusés pour les trois dossiers. Mais il y a des parties civiles, des plaignants qui vont se présenter. On a aussi des témoins qui ont été cités et que nous allons entendre parallèlement aux accusés qui vont répondre.
Ont-elles ces personnes droit à des avocats commis d'office comme on le voit ailleurs?
Bien sûr, ils ont les mêmes droits. Comme la loi le dit, face à une cour d'assises, tout le monde a obligatoirement droit à la défense d'un avocat.
Les militaires qui seront condamnés, où vont-ils purger leur peine?
En cas de condamnation, notre devoir s'arrête à ce niveau, mais la hiérarchie militaire est là. Ils ont des locaux appropriés où ils seront détenus. Et globalement, toutes les décisions au niveau du tribunal militaire ne peuvent faire l'objet d'appel parce que nous sommes au même niveau que les cours d'appel, mais peuvent faire l'objet de pourvoi pour aller devant la Cour suprême.